20h, c'est votre rendez-vous scientifique de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons de la quatrième révolution industrielle dans l'atome de savoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
C'est cadeau. Pour fêter notre arrivée sur Radio Campus Paris, l'équipe de l'Atome vous offre un voyage dans le temps. À l'aube de la quatrième révolution industrielle, nous allons découvrir deux regards sur l'avenir de l'industrie et les possibles conséquences sur nos habitudes. Ces regards, ce sont ceux de Catherine Bréchignac. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne présidente du CNRS, vous êtes aujourd'hui secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences, co-auteur avec Arnaud Benedetti de l'essai « Le progrès est-il dangereux ?» qui sera publié le 23 octobre prochain aux éditions Humaines Sciences. Et Jean-Claude Guyard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'innovation chez Capgemini et vous conseillez les entreprises sur leur stratégie d'évolution technologique depuis 8 ans. Je vous présente Guillaume qui sera avec nous tout au long de cette émission.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir. Salut Gaspard, et oui, en pleine fête de la science, c'était vraiment le bon moment pour lancer cette émission qui se déroulera un jeudi par mois à 20h ici sur Radio Campus Paris. Cette fête de la science, c'est jusqu'à dimanche et nous écouterons tout à l'heure le reportage de Vadim et Jade qui ont fait le tour des événements parisiens organisés à cette occasion. Et en fin d'émission, nous retrouverons Lou qui nous expliquera comment c'est possible de fabriquer un smartphone pliable.
Marty ! Il faut que tu repartes avec moi !
Où ça ?
Mais vers le futur !
Oui ! Une nouvelle révolution industrielle nous guette, mais finalement, qu'est-ce que c'est une révolution industrielle et qu'est-ce que ça change à notre vie ? Eh bien, on parle d'une révolution industrielle lorsque les transformations de l'industrie sont si importantes qu'elles changent complètement les habitudes de consommation, la répartition des métiers et le paysage d'une société. Et ce sont, évidemment, les progrès technologiques qui permettent l'évolution des procédés industriels. Des révolutions industrielles, l'histoire en compte déjà trois. La première, au début du 19e siècle, ce sont les premières entreprises qui se construisent, on y fait tourner des machines grâce à l'énergie du charbon. Ensuite, la deuxième, au 20e siècle, au début du 20e siècle, avec l'arrivée de l'électricité et la production de masse. Et enfin la troisième, dans les années 60-70, avec l'automatisation des tâches simples. Alors vous allez me dire, mais on automatise toujours des tâches effectuées par des humains. Et je vais vous répondre que oui, c'est vrai, mais les tâches qu'on automatise aujourd'hui ne sont plus si simples que ça. Ce sont d'autres systèmes qui entrent en jeu, des systèmes interconnectés, dits intelligents. Et c'est là que commence la quatrième révolution industrielle. En effet, les solutions technologiques qui se mettent en place aujourd'hui sont nouvelles. Les procédés industriels vont à nouveau être bouleversés, et nos habitudes aussi. Une révolution industrielle arrive également parce que nos besoins évoluent. Selon la Tribune, le chiffre d'affaires du e-commerce en France était de 82 milliards d'euros en 2017, soit 10 fois plus qu'en 2005. Cette augmentation pousse le secteur de la logistique à trouver des moyens de livraison plus rapides. Cela remet aussi en question l'existence de certaines boutiques de quartier et autres centres commerciaux. Un autre enjeu, et il est on ne peut plus important, c'est le dérèglement climatique. Là-dessus, le World Economic Forum, anciennement Forum de Davos, organise bon nombre d'événements pour tenter de faire converger nouvelle industrie et respect de l'environnement. Les entreprises préparent leur transformation depuis déjà quelques années. Il s'agit de bien prendre le virage de la quatrième révolution industrielle pour ne pas finir dans le mur. Voici les prévisions d'un constructeur automobile.
Découvrons ensemble notre usine du futur. Les espaces de travail sont dégagés, les tâches lourdes assurées par des robots et les contrôles qualité sont effectués automatiquement puis validés par les opérateurs. À l'atelier ferrage, un contrôle total de la géométrie des pièces est effectué grâce à un pointage laser. Ultra connectée, l'usine du futur se passe de papier. Toutes les informations sont stockées, analysées et échangées en temps réel. Si une dérive même minime est détectée, l'information de correction est automatiquement envoyée vers le robot à l'origine du problème, qu'il soit dans l'usine ou chez un fournisseur. À l'atelier peinture, le système d'impression permet une personnalisation sur mesure dans le flux de production. Dans les zones de kitting, opérateurs et robots constituent le kit de montage dont la composition varie selon la demande client. Le full kitting est massivement déployé dans nos ateliers pour garantir la flexibilité. Le kit rejoint ensuite le véhicule qui s'insère dans la ligne en épi. Au montage, la ligne principale rassemble les opérations communes à tous les véhicules et des flux dérivés permettent de gérer de manière fluide la diversité des équipements. La réalité augmentée permet à nos opérateurs d'être formés en continu. Leur polyvalence est renforcée. Sur la ligne en épi, la mise en production de nouveaux modèles est facilitée par les échanges en temps réel entre l'usine et la conception. Aucun de nos robots, ni au ferrage, ni au montage, n'est fixé au sol. Nous pouvons les déplacer sans contrainte. L'usine du futur, c'est l'alliance de la technologie et de l'humain au service de la flexibilité.
La quatrième révolution industrielle, est-ce que vous trouvez qu'on en parle beaucoup, Catherine ?
Non, on n'en parle pas beaucoup, et même j'ai fait un peu de questionnement vers différentes personnes, et beaucoup m'ont dit « je ne sais pas ce que c'est ».
Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est quand même du côté industriel. Les grands consommateurs n'ont pas forcément connaissance de ce qui se passe. Dans l'informatique, on participe beaucoup à cette révolution, donc nous, on est beaucoup engagés là-dessus, mais c'est vrai que j'avoue que ce n'est pas forcément un terme grand public et on ne comprend pas toujours ce que ça revêt.
Mais je pourrais faire peut-être un commentaire sur ce que vous avez dit à propos des révolutions industrielles.
Bien sûr.
Je dirais que les deux premières révolutions industrielles, celle qui est passée au moteur thermique, l'énergie thermique, on est passé de l'énergie animale à l'énergie thermique, et puis ensuite on est passé à l'énergie électrique, ensuite on a robotisé de plus en plus avec l'informatique. Mais ce qui caractérise la quatrième révolution industrielle, c'est le fait qu'elle touche le secteur tertiaire. Et jusqu'ici, les révolutions industrielles ne touchaient pas le secteur tertiaire, touchaient essentiellement les produits. Tandis que là, maintenant, on voit la quatrième révolution dans les services. Et donc, ça impacte directement le consommateur.
Oui, je crois que le numérique est rentré dans la consommation de chacun. Je veux dire, aujourd'hui, on déclare ses impôts via Internet, sur son téléphone mobile. Je pense que la quatrième révolution a été aussi beaucoup supportée par la troisième génération des télécoms, hein, qui permettait avec un téléphone mobile, dans n'importe quelle situation, d'être en communication avec ses données propres et échanger ses données avec les services tertiaires.
Donc pour vous, c'est ça les symptômes de la quatrième révolution industrielle, de celle qui vient de commencer.
Oui, moi je pense que pour moi une révolution industrielle, c'est déjà le fait d'automatiser la fabrication d'objets de consommation de manière générale qui avant étaient fabriqués de manière très manuelle. D'accord ? Donc les machines sont de plus en plus puissantes, elles sont capables de fabriquer automatiquement des choses qui étaient avant fabriquées par les artisans. Il y a une deuxième caractéristique de cette quatrième révolution, et vous en avez parlé, on est même, nous, capables de fabriquer l'objet par notre propre IHM. On est capable, nous, avec notre
interface
téléphone...
Interface
homme-machine. On est capable de programmer ce qui nous plaît. Vous savez, par exemple, on parlait de Peugeot, mais parlons de Citroën, la DS, hein, où on peut juste sur son smartphone choisir la couleur des rétroviseurs, la couleur des toiles, les motifs. Vous savez, sur 1000 DS qui sortent, combien est-ce qu'il y en a qui sont différentes ?
900 ?
Oui, c'est 800, mais c'est énorme. Ces 800 voitures sont différentes, c'est-à-dire que ce mode, ça coûte plus cher, mais le fait qu'on puisse fabriquer soi-même sa voiture, avoir l'impression d'influencer sur la voiture, a vraiment gagné le grand public. Et donc, c'est ouvert au grand public. Donc c'est un peu la différence, peut-être, de cette quatrième révolution.
Enfin, on n'influence que les carrosseries, on n'influence pas le moteur.
On peut choisir. Oui, on n'en est pas encore là. Mais on peut choisir son moteur et on peut choisir des rétroviseurs roses.
Hein, c'est important.
C'est important.
Mais alors, donc, pour vous, qu'est-ce que ça englobe, cette quatrième révolution industrielle ? Il y a la personnalisation, il y a aussi tout ce qui est la rapidité, peut-être, de fabrication ? Jean-Claude Guyard.
Oui, je pense que toutes les révolutions, c'est-à-dire qu'on fabrique la même chose que pendant la troisième, mais moins cher. D'accord. Pourquoi ? Parce que on a besoin de moins d'interactions pour fabriquer. Les automates sont de plus en plus intelligents. Ils apprennent. Hein. L'auto-apprentissage a été est la grande transformation de cette quatrième révolution. C'est-à-dire que les robots sont capables d'apprendre. Alors on parle de réseaux neuronaux et de machine learning.
Hein, d'Internet de l'objet.
Ils sont capables de reproduire. Alors, je pense que c'est encore bien, bien loin, mais ils reproduisent ce que le cerveau humain est capable lui-même de comprendre. Avec les cinq sens de l'humain, on est capable d'anticiper, de comprendre des choses. Les robots viennent petit à petit apprendre là-dessus. C'est vraiment la grande différence sur la quatrième révolution. Ils sont auto-apprenants et ils ne font que progresser.
Catherine Bréchignac.
Oui, alors il faut pas confondre. Enfin, cette notion d'intelligence artificielle, je déteste ce mot parce que d'abord on l'a traduit de l'anglais. Et intelligent en anglais ne veut pas dire intelligence, mais bon, on l'a pris, c'est très bien. On le garde comme ça et parce qu'on n'a pas du. C'est très différent de l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence de connectique, c'est-à-dire uniquement algorithmique, alors que l'homme, lui, il a en plus. Sa subjectivité, son émotion, un robot ne peut pas être amoureux. Donc tout ça fait une grosse différence, mais ce qui est très important, c'est que dans toute cette algorithmique, on est capable d'aller extrêmement vite, mais surtout, on est capable d'avoir une mémoire, de collectionner une mémoire gigantesque et de la balayer à toute vitesse que l'homme ne peut pas faire. Donc effectivement, ça fait un très gros progrès, à la conception et aussi à la réalisation des produits industriels. Mais moi, j'irai plus loin. Je dirais vraiment que le gros impact qu'on va avoir d'ici demain, c'est quand cette révolution industrielle touche le secteur tertiaire. Parce que le secteur tertiaire, il est dans la rue, c'est le secteur des services. Et donc, quand vous irez, déjà d'ailleurs, vous achetez vos tickets de métro avec une machine, vous enregistrez vos bagages.
D'ailleurs, bientôt, il n'y aura plus de tickets de métro.
Directement. Alors, bientôt, oui, il n'y aura plus de tickets de métro, donc ça sera encore une. Ouais, ça, c'est évident. Mais enfin, vous achetez, vous payez directement. Tout est robotisé. Et ça, c'est anxiogène, en fait. Donc, il va falloir réfléchir. Quand ça touche pas le secteur tertiaire, je dirais que c'est moins grave parce que c'est vraiment des ingénieurs et des techniciens qui sont impliqués. Or, quand ça touche le secteur tertiaire, tout le monde est impliqué. Et donc, il va falloir réapprendre à utiliser ces objets et ces objets hyper connectés et surtout le dialogue entre les objets connectés. Donc, ça va être une vraie révolution de pensée.
Justement, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Claude Guyard juste à l'instant. Il a parlé des prix, en fait. Et est-ce que vous pensez que, justement, la quatrième révolution industrielle, c'est la révolution industrielle qui amène la baisse des prix? Ou alors, est-ce que c'est l'évolution technique de la quatrième révolution qui amène les prix?
Les deux sont liés. Si on sait fabriquer une voiture plus vite, avec moins de matière... Et ben, ça va coûter moins cher. Je prends un exemple simple, c'est les avions Airbus. Aujourd'hui, vous savez combien il y a de pièces imprimées en imprimante 3D dans un avion A320?
Alors, je dirais une centaine.
10 000.
Ah oui.
Il y a 10 000 équipements qui sont fabriqués avec des imprimantes 3D aujourd'hui dans les avions. Ne serait-ce que pour attacher les colliers, pour attacher les câbles au plafond, comme le poids a beaucoup d'importance dans un avion, le fait de les designer, de les imprimer au minimum, permettent de gagner de l'argent et du poids pour Airbus. Et en plus, la matière, on consomme moins de matière quand on imprime, puisqu'on imprime les trous, on les découpe pas, ils n'existent pas. Airbus est en train de travailler, et l'industrie est en train de travailler sur les pièces maintenant en aluminium, d'accord, l'imprimante 3D en aluminium, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'anticiper la déformation de l'aluminium quand il refroidit pour faire des pièces aussi d'avions en aluminium, avec le même intérêt. Aujourd'hui, les Israéliens ont réussi à faire des cœurs de souris en imprimante 3D. D'accord. Donc l'imprimante 3D, ça fait partie des choses aujourd'hui qui font baisser le prix de la fabrication.
Et ce qui est très intéressant dans l'imprimante 3D, c'est que vous pouvez envoyer votre logiciel de loin et le réaliser ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez complètement déconnecter la partie, je dirais, réflexion et mise en place du logiciel pour le faire et la fabrication.
Donc en fait, on voit un peu là un autre avantage de cette révolution industrielle, c'est-à-dire qu'on pourrait d'une certaine manière limiter la délocalisation en fait.
Oui, on pourrait produire sur place. C'est le locavore de.
Alors, c'est ou limiter ou augmenter. Enfin, c'est les deux. Mais parce que
Dans l'exemple cité, en tout cas, on arriverait à limiter, en tout cas, sur les productions à petite échelle, sur des pièces du quotidien, on arriverait à limiter justement des exportations étrangères.
Là, on
par
peut
exemple.
Faire à la demande, c'est ça qui est intéressant.
Oui, d'ailleurs, on voit les constructeurs automobiles ont rapatrié des usines qui étaient assez loin à l'est. Ils les ramènent en France, hein, enfin au moins en Europe et des fois en France, parce que grâce à ces automatisations, hein, Peugeot parlait de reconfiguration automatique de l'usine, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de machines qui soient fixées au sol ou pour faire une nouvelle production, on serait obligé de prendre plusieurs mois. Il suffit de déplacer les engins à la limite la nuit. Ils pourraient même imaginer qu'ils se déplacent tout seuls. Et on vient encore une fois réduire les coûts parce que quand une usine comme Renault ou Peugeot ne produit pas de voitures, ça coûte cher.
Et puis vous avez raison, en fait, les industries se sont délocalisées parce que la main-d'œuvre coûtait moins cher ailleurs. Maintenant, il n'y aura plus besoin de main-d'œuvre, il y aura besoin essentiellement d'ingénieurs et techniciens performants. Et donc, les usines peuvent très bien revenir parce que tout sera automatique.
Alors revenons à toutes les trois précédentes révolutions industrielles. Donc on a à peu près compris qu'est-ce que c'était la différence fondamentale de celle-ci avec les autres, mais est-ce qu'il y a un élément déclencheur à vos yeux de cette quatrième révolution industrielle ? Comme par exemple pour la première, c'est la machine à vapeur.
Moi je l'associe à l'Internet.
Oui, hein.
L'arrivée
aussi.
D'Internet.
C'est début 21e siècle.
Voilà, c'est fin 20e avec l'Internet grand public. Ouais. D'accord ? Et j'aurais tendance à le coupler avec la 3G, hein, les téléphones mobiles, parce que finalement, tous ces usages... d'omnicanalité, hein, c'est-à-dire que à partir des débuts 2000, on pouvait faire la même chose et garder le contexte de ce qu'on faisait, quel que soit le canal qu'on utilisait à un moment donné, que ce soit un guichet, que ce soit derrière son PC, que ce soit derrière son téléphone. Ça a été vraiment une révolution. C'est devenu hyper simple et c'est le tertiaire qu'on a bénéficié. C'est-à-dire qu'on passait moins de temps à faire la queue dans les agences. Municipale ou gouvernementale.
Oui, et puis du coup, on peut faire ça aussi n'importe où. On peut n'importe où, comme vous le disiez au début de l'émission, Jean-Claude Guyard, configurer sa voiture, choisir voilà. Les rétroviseurs roses.
On peut le faire dans le bus.
On peut le faire dans le bus, enfin voilà. On ne peut pas le faire dans l'avion. On peut le faire.
Et encore, ça dépend. Bien sûr.
Pas encore.
Il y a des compagnies aériennes qui offrent du wifi dans l'avion.
J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Oui,
Lufthansa le faisait il y a quelques années, ils ont arrêté, ça coûtait beaucoup trop cher. Mais aujourd'hui, ça c'est encore intéressant, c'est le prix de la technologie a été diminué de manière drastique. Quoi, hein. Je veux dire, aujourd'hui, la 5G va commencer à s'installer un petit peu partout dans le monde. Les coûts de déploiement vont être bien plus faibles que sur la 4G. Quoi, hein. Parce que les composants électroniques et les fabrications de ces cartes ont amélioré là-dessus. Et les progrès technologiques derrière la 5G ont permis de réduire pas mal de coûts.
Alors, est-ce que pour vous, maintenant, il y a plein de secteurs qui sont touchés. On a parlé du secteur automobile, on a parlé des téléphones, etc. Quelles sont toutes les filières touchées ? Dans la grande distribution, dans le textile, dans l'ameublement, tout ça. Par exemple, dans la grande distribution, qu'est-ce que ça va changer, fondamentalement ?
Ça a déjà beaucoup changé de choses. Vous n'êtes pas Amazon, ça vous parle ?
Bien sûr.
Amazon a changé... c'était quand même, au départ, une bibliothèque, un libraire. D'accord, qui s'est aperçu qu'il avait des moyens et qu'il ne les utilisait pas bien, il a commencé à vendre un peu tout et n'importe quoi. D'accord. Donc Amazon a changé, a bousculé les existants. Aujourd'hui, regardez, si Carrefour et Auchan réfléchissent à changer la manière de travailler, c'est qu'ils ont été heurtés par la révolution du e-commerce. Hein.
D'ailleurs, on va réfléchir à... Maintenant, on est obligé aux centres commerciaux. Comment vont se transformer les centres commerciaux ? Est-ce que ça va être des centres de loisirs ? Est-ce que l'humain est grégaire, donc il a besoin d'agora pour se retrouver. Mais donc les centres commerciaux, on va plus aller magasiner comme disent nos cousins canadiens. On va aller pour regarder, pour se détendre, le loisir. Même aussi, on commence déjà depuis déjà longtemps le cinéma. Oui. Mais donc voilà. Donc je pense que la grande distribution va complètement changer. Et ce qui va aussi beaucoup changer, c'est le fait de la livraison. La livraison qui vous arrive chez vous, mais il va falloir trouver des systèmes parce que ça coûte encore cher. Donc d'avoir des livraisons qui arrivent dans différents lieux où vous pourrez vous récupérer votre produit.
Oui, le point relais.
Par exemple.
Oui, le point relais que la Redoute avait. La Redoute avait inventé ça il y a une quinzaine d'années.
Oui, hein, oui.
Sur le Minitel, on pouvait commander quelque chose en 48 heures. La Redoute avait anticipé en fait tout ce que Amazon sait faire aujourd'hui, c'est-à-dire que déposer les objets les plus courants, les plus demandés à l'époque de la Toussaint par exemple ou à Noël dans des lieux proches et utiliser les fleuristes pour faire des points de dépôt plutôt que faire les derniers kilomètres qui coûtaient extrêmement cher s'il fallait aller chez vous parce qu'il fallait passer par la poste et tout ça c'était cher, donc ils ont choisi plutôt des points relais.
Pour terminer, on va maintenant s'intéresser à ceux qui s'opposent à ces changements, à ces transformations de l'industrie. Est-ce qu'il y a un mouvement d'opposition à la quatrième révolution industrielle, Catherine Bréchignac?
Oui, il y a un mouvement qui s'appelle l'Association française contre l'intelligence artificielle.
Oui. Elle est spécifique.
Et donc, elle est même présidée par un polytechnicien.
Ah.
Hein, donc, qui incite beaucoup à la méfiance et qui dit qu'il ne faut pas être dans une phase de techno-béatitude et que nous traversons en ce moment et qu'il nous faut réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette quatrième révolution industrielle. En fait, il insiste aussi beaucoup, et c'est ce qui fait peur aux gens, c'est ça, un peu ça, c'est le côté Frankenstein, c'est le côté...
transhumanisme.
On se laisse dépasser par la créature que l'on a créée. Et donc, qu'est-ce qu'on va être devant cette robotisation à outrance? Donc, voilà, oui, il y a un mouvement contre. Alors, moi, je pense que les mouvements contre, il faut toujours les écouter. C'est comme les gilets jaunes dans la rue. Il faut écouter les gens qui ont quelque chose à dire. Ensuite, après, on discute.
Après, on discute.
Mais je crois que c'est intéressant de voir que... Parce qu'il faut bien voir qu'une technologie ne peut se développer que si elle est acceptée par la société. Si vous avez une technologie qui n'est pas acceptée par la société, et regardez en France, par exemple, les OGM, vous ne pouvez pas la développer. Donc, parce que c'est le client qui achète. Donc, vous êtes obligé de convaincre et d'expliquer. Et c'est pour ça, je trouve que votre émission sur la quatrième révolution industrielle est intéressante, parce qu'au fond, on peut effectivement discuter qu'est-ce que c'est, quel est le pour, le contre, pourquoi, qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, je crois qu'il faut absolument essayer d'apprendre, de parler avec tout le monde, de faire passer les messages et donc de discuter avec ceux qui ne sont pas d'accord.
Bah, je pense qu'il faut effectivement de l'éducation et c'est important. Je reprends le mot de Woody Allen qui disait le contraire de l'intelligence artificielle, c'est l'imbécilité humaine. Bon, il allait peut-être un peu loin, mais je pense que tout ça, c'est normal d'avoir des contestations. Il faut maintenant que les scientifiques aussi donnent de leur savoir, hein, et le partagent pour faire comprendre que c'était qu'il y a des bénéfices pour l'homme. D'accord. L'exemple que vous preniez, je veux dire, aujourd'hui, début du XXe siècle, quand l'électricité est arrivée, les Marshall Ferrand ont dit, mais moi, c'est quoi mon métier de demain? S'il n'y a plus de chevaux, si les voitures remplacent les chevaux, comment je fais, quoi, hein? Donc tout ça, c'est compliqué. Et les premières voitures, quand elles ont commencé à rouler, ou le train qui devait dépasser 30 km/h, la rumeur disait que les pupilles allaient se décoller. Quoi, parce qu'en roulant à 30 km/h, les pupilles allaient se décoller. Donc le danger, toujours le danger de l'inconnu. D'accord. Et la quatrième révolution industrielle, elle est là aussi à amener des inconnus, hein, des surprises qui peuvent être bienfaitrices et qui peuvent faire peur parce que d'un autre côté, GDPR, tout ce qui est vos données, vous avez l'impression qu'on sait tout sur vous et que vous ne maîtrisez plus grand-chose. D'accord. Est-ce que c'est une crainte? Est-ce qu'il faut en avoir peur? C'est assez compliqué de faire la part des choses là-dessus.
C'est pour ça aussi, je pense que le grand public en ce moment, peut-être, quand on entend parler de révolution industrielle ou de nouvelles technologies, on pense beaucoup au scandale de Facebook ou de problèmes de données personnelles. Et je pense que c'est ça qui peut amener justement à un certain malaise en fait dans le grand public.
Mais ça prouve qu'il y a encore des hommes derrière tout ça, hein, parce que la faiblesse humaine, elle est là. On va utiliser des données au-delà de ce qu'on pourrait trouver acceptable en tant que moraliste ou dans un comportement normal.
Eh bien, merci. Ça va nous amener à parler des conséquences de la quatrième révolution industrielle. Nous allons en parler après le reportage de l'Atome de Savoir. Alors, Catherine Bréchignac, vous savez que c'est la fête de la science. Donc, bonne fête de la science.
Merci beaucoup.
Vous êtes donc ancienne présidente du CNRS. Ça doit vous faire quelque chose quand même comme période.
Oui, parce que tous les ans, nous fêtons la science. Je pense que c'est justement, c'est important parce qu'on vient de dire que parfois la science fait peur, le progrès fait peur. Donc il faut en parler, il faut le fêter pour montrer que tout n'est pas négatif, qu'il y a des choses qui sont bonnes. De toute façon, la science ne serait pas là, nous en serions encore à l'âge préhistorique. Donc c'est plutôt bien. Et cette année, c'est les 80 ans du CNRS, donc la fête de la science va se faire partout en France.
Merci, donc c'est la fête de la science jusqu'à dimanche, profitez-en.
Il est grand temps de réenchanter la science et le futur qu'elle nous promet.
Alors moi, je suis Emilien Cornillon, je suis médiateur en informatique au Palais de la Découverte. Et bah là, aujourd'hui, c'est la fête de la science et je présente en particulier une intelligence artificielle qui est faite uniquement en carton et en perles de plastique.
Moi, je suis Valérie Lourier, je suis médiatrice scientifique à la Cité des Sciences. On est sur le stand avec l'équipe du Biolab. Donc le Biolab, ça sera un futur lieu dans la Cité des Sciences, autour de la biologie et de l'environnement.
Je suis Didier Faradji et je suis auteur de jeux mathématiques qui sont édités par l'Éducation nationale.
Nous sommes Tellier Delcroix et nous sommes... on va dire, comme Jean-Luc Godard, une petite entreprise de photographie. Et nous faisons de la photographie événementielle.
Alors évidemment, la fête de la science, c'est partout en France, jusqu'au 13 octobre, avec, tenez-vous bien, plus de 6000 animations gratuites.
La fête de la science, déjà toute la cité, elle est envahie par des stands, par des gens qui viennent de partout. Là, on a des Belges là, qui travaillent sur la fermentation. Il y en a, je crois que c'est les caisses du jardinier ou un truc comme ça. Bon, bref, il y a plein de trucs. Il y a des trucs sur les robots, sur le codage, la programmation. Ouais, c'est la fête. C'est la fête.
Au travers des différentes expérimentations, les animateurs cherchent à dédramatiser la science et surtout à la rendre accessible.
Là, typiquement, cette intelligence artificielle, elle a appris à jouer au morpion. Et elle est composée uniquement donc, de 304 boîtes d'allumettes dans lesquelles on va avoir des perles. Chacune des boîtes représente une position possible du jeu de morpion. Alors le message, il est très simple. L'intelligence artificielle, c'est pas intelligent. En fait, dans le monde de la recherche, le mot qu'on utilise dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est le machine learning. La machine qui apprend. C'est juste ça. Une intelligence artificielle, c'est une machine qui apprend.
Et souvent, les animations servent aussi à faire passer un message un petit peu plus global.
Alors concrètement, nous avons installé une piscine gonflable en fait, qui fait à peu près 5 mètres de diamètre, que nous avons remplie d'objets en matière plastique très colorés. Et nous invitons les gens à s'immerger là-dedans. Et nous faisons une photographie.
Nous avons choisi de sensibiliser les gens à la présence des matières plastiques dans notre vie quotidienne.
Donc on leur offre un moment un peu ludique et une jolie image qu'ils vont conserver. Mais en même temps, avant de faire la photo, on leur a proposé de réfléchir justement à cette présence des matières plastiques et dans la vie quotidienne et comment faire autrement.
Qu'est-ce que peut apporter une manifestation comme la manifestation de la fête de la science à la communauté scientifique?
En fait, le truc, c'est que vu que les gens entendent parler de la science en particulier dans ces moments-là, du coup, ils ont tendance à plus venir dans les centres de sciences. Et donc, on a un public qui est en général plus vaste. Ajouté au fait que, en général, les centres de sciences comme le Palais des Découvertes font la gratuité pendant cette période-là, ça incite les gens à venir d'autant plus qu'il y a cette gratuité justement qui permet à n'importe qui de venir.
Elle nous apporte une grande vitrine, parce que tous les gens qui passent ici entendent le discours que nous avons tenu, que nous vous avons tenu.
La fête de la science, je pense que c'est d'abord une rencontre entre des animateurs scientifiques et un public qui peut être pas au fait avec les matières scientifiques et de les amener à rencontrer les mathématiques et d'autres sciences. Et ce qui est important, c'est la rencontre. À partir du moment où on fait la rencontre avec une discipline et dans un univers parfois qui est un peu éloigné de l'école, eh bien, d'un coup, il y a une révélation qui peut se faire et on peut se retrouver avec des affinités avec cette discipline et la voir avec un autre regard parce qu'on l'a abordée dans un cadre ludique, complètement désintéressé.
Quel message aimeriez-vous faire passer à travers cette manifestation ?
Qu'on a besoin des gens. Pour les sciences, c'est accessible à tous. Ça dépend par quelle ficelle on commence à aborder la question. Puis pour le Biolab, c'est le message fort, c'est venez nous voir. On est vraiment dans l'inclusion, quoi, dans du participatif.
Durant ce reportage, il s'est aussi posé la question de savoir comment la science pourrait-elle être plus attractive.
Je pense que pour promouvoir les sciences en France, mais plus les mathématiques, puisque c'est plus mon domaine, je crois qu'il faut montrer ce qu'il y a de surprenant dans les mathématiques et de créer de l'étonnement. À partir du moment où on est surpris par la rencontre d'un concept mathématique, ce moment-là, les mathématiques ne nous apparaissent plus comme une discipline purement livresque.
Il ne nous reste qu'une seule chose à vous dire, laissez-vous surprendre. La fête de la science, c'est pas fini, c'est encore jusqu'au 13 octobre. C'était un reportage signé Vadim et Jade.
L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part ?
De retour dans notre discussion sur Radio Campus Paris sur la 4e révolution industrielle avec Catherine Bréchignac et Jean-Claude Guyard. Alors on parlait donc de toutes les causes de la 4e révolution industrielle. Maintenant, quelles en seront les conséquences ? Voilà, voyez-vous d'autres impacts de la 4e révolution industrielle pour les entreprises, par exemple ? Jean-Claude Guyard, qu'est-ce que ça va impacter réellement dans l'entreprise, dans les workflows, dans les processus ?
Je crois que la 4e révolution, il y a une initiative allemande qui s'appelle Factory 4.0, où on a essayé de normer les Allemands, qui sont quand même des grands manufacturiers devant l'éternel, ont essayé de normer tout ce que cette révolution allait amener. La révolution, elle vient, on a parlé le machine learning, mais il y a aussi la réalité augmentée, la réalité mixte, il y a plein de nouvelles, et ils ont essayé de normaliser ça. Donc je pense que la normalisation, si elle est réussie, au moins la standardisation va permettre de réduire les coûts. D'accord ? C'est-à-dire que si toutes les machines se mettent à parler la même langue, on va pouvoir les remplacer plus facilement, on va pouvoir les faire évoluer sans avoir de coûts importants de développement.
Mais là, il y a toujours eu des guerres sur la normalisation, savoir quel pays en fait envoyait des gens qui pour établir les nouvelles normes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces questions de normalisation ?
Il y a des avancées très certaines en Allemagne. Je parlerai plutôt de standardisation. C'est-à-dire que
on n'est pas
aux normes comme on peut l'être dans les télécoms ou dans les transports. Mais on a standardisé pas mal d'outils. Et je pense que les pays du Nord, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre à son niveau et les pays suédois ont bien avancé là-dessus. La France prend le chemin, d'accord, de rester dans ses standards pour permettre de communiquer. C'est clair que les Allemands ont un gros avantage sur nous, c'est qu'ils fabriquent beaucoup de machines-outils. Et ce sont toutes ces smart factories, toutes ces machines-outils communicantes qui vont engager dans l'industrie 4.0 et qui vont réduire les coûts de fabrication.
Donc c'est vraiment les standards qui manquaient pour pouvoir faire dialoguer n'importe quelle machine avec n'importe quelle interface, c'est cela ?
Oui, on pouvait faire dialoguer n'importe quelle machine avec n'importe quelle interface, mais le fait d'avoir un standard permet de réduire les coûts et de simplifier et d'augmenter la connexion.
Nous, les Français, les entreprises françaises, est-ce qu'on est en avance ou en retard par rapport au reste du monde ? Bon, vous avez parlé des pays du Nord, mais nous, on en est où ?
Moi, je pense que nos industriels n'ont pas à rougir
on est vraiment
ça.
Dans la course.
Les gens comme EDF sont capables de faire des choses et le réseau électrique français est d'une très haute qualité et c'est grâce effectivement à tous les équipements qu'on a mis autour de ça. Les constructeurs automobiles, on en parlait aujourd'hui. Renault est le premier plus grand fabricant de voitures dans le monde. Bon, avec Nissan et compagnie, mais n'empêche que c'est un fait.
On a toujours Airbus,
on a quelques fleurons.
Dans des entreprises plus de services comme des entreprises de l'eau, etc. Suez a une position absolument extraordinaire. Oui. Elle était en train de complètement rénover tout ça.
Et spécialement avec la vague de traitement de l'environnement. Les entreprises comme Suède ont mis beaucoup d'intelligence dans leurs machines, dans leur manière de traiter les environnements.
Recycler les déchets.
Et ces entreprises gagnent pas mal de marché en Europe sur leur savoir-faire.
Mais même ailleurs, même en Chine, même partout. Enfin, c'est des entreprises voilà, donc, qui sont
donc, je pense qu'il y a eu une culture. Je pense que moi qui suis au contact de beaucoup d'écoles, beaucoup d'étudiants, depuis 8 ans, depuis 4 ans, j'ai vu un gros progrès dans les écoles d'ingénieurs en France. On a quand même une qualité d'école qui est importante, avec beaucoup d'années de césure. C'est-à-dire que les universités, les écoles engagent leurs étudiants à sortir dans la rue, apprendre à créer leur start-up, à apprendre quelque chose d'autre et à changer un peu de continent pour les enrichir. Donc ça, c'est un bénéfice. C'est le premier bénéfice qu'on voit. Aujourd'hui, on est la première start-up nation en Europe. D'accord, on a rattrapé notre retard sur l'Angleterre et l'Allemagne. D'accord, la place de Paris a plus de 10 000 start-up. Et on voit l'animation avec France Digital, la French Tech, la BPI, sont vraiment des animateurs d'écosystèmes qui sont très intéressants. D'accord. Et moi, nous, personnellement, Capgemini, on y retrouve un savoir-faire très intéressant qui va aider les grands industriels à aller beaucoup plus vite.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout notre système éducatif, qu'on peut critiquer par moment, parce que évidemment, c'est pas un système uniforme, c'est un système avec deux bosses, avec un côté élite et puis les autres qui malheureusement sont un peu à la traîne, a une très forte composante mathématique et informatique et qui ensuite permet d'avancer beaucoup plus vite et est très demandée dans le monde entier. Hein. Nos mathématiciens et informaticiens sont absolument achetés partout. Oui. Donc on a une école qui commence au démarrage avec, et qui va jusqu'à l'industrie. Donc en fait, c'est vrai qu'on est solide sur le marché.
Et du coup, justement, donc là, on voit qu'il y a quand même un certain savoir en France qui se développe et qui s'exporte. Est-ce que vous pensez justement que ce savoir va s'exporter et puis finalement se développer massivement à l'étranger depuis la France, ou est-ce qu'il va quand même tirer la France vers le haut ?
Moi, je pense que de toute façon, on est en train d'avoir un système qui est absolument mondialisé. Bon, les scientifiques ont toujours été mondialisés depuis le début, mais enfin, on l'est maintenant un peu partout. Et le point important, c'est d'avoir dans notre pays des points de cristallisation où on peut attirer les meilleurs. À part ça, on ne peut pas vivre en se disant on a un hexagone et puis rien à côté. La compétition n'est plus géographique. La compétition, elle est beaucoup plus sur le plan des multinationales. La compétition, elle est sur le plan de la formation. Et la compétition, elle est sur le fait de pouvoir attirer les meilleurs quelque part. Donc, si on a quelques points, quelques pôles français où on peut attirer les très bons, moi, je pense que c'est comme ça qu'on progressera et qu'on gardera notre positionnement.
Je pense que la recherche fondamentale reste quand même le premier déclencheur de d'accélération pour cette révolution. On prend le CEA qui a été noté récemment comme le premier devant le MIT.
Le commissaire à l'énergie atomique.
Oui, commissaire à l'énergie atomique a été noté comme le premier laboratoire de recherche.
Et aux énergies alternatives, vous avez
À Grenoble.
Oui, à Grenoble.
Donc je pense que la recherche fondamentale, mine de rien, ça va être aussi un vrai instigateur de ce qui va se passer derrière. Bien sûr, on est en retard sur les investissements quand on se compare aux Chinois ou aux Américains. Je pense qu'il reste, malgré tout, beaucoup de choses à faire en Europe. Je pense que l'Europe aura intérêt sûrement de se fédérer encore un peu plus à ce niveau-là. Mais moi, je suis assez confiant sur le fait que nos têtes bien faites, notre éducation scientifique, mathématique en particulier, reste quand même de très très haut niveau et on va en bénéficier dans les années qui viennent.
Oui, je pense aussi.
Alors cette révolution industrielle, reprenons en quelques points ce que c'est de la personnalisation, de la rapidité et de l'environnement. Alors sur la rapidité, on a évoqué en début d'émission la livraison. Alors quels sont les enjeux de la livraison demain ? Est-ce qu'il y a une nouvelle bataille qui est lancée, Catherine Bréchignac ?
Ben oui, il y a une bataille de la livraison. Par exemple, ce qui est étonnant, c'est que quand arrivent les fêtes de Noël, par exemple, vous avez des livraisons qui vous arrivent jusqu'à 11h du soir pour le cadeau de minuit. Donc, tout le monde se met dans la course pour pouvoir récupérer du marché, pour pouvoir vendre des produits, etc. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la diversification des objets que l'on veut acheter et la manière de les livrer a complètement changé. Et d'ailleurs, parce qu'il faudrait que la poste, qui était autrefois pour acheminer des lettres qui n'existent plus parce que le mail l'a complètement remplacé, devrait se transformer complètement en livreur de colis.
Oui, avec Chronopost, d'ailleurs, qui est la filiale.
Mais bon, Chronopost, c'est pas c'est plus pas efficace.
En fait, c'est le privé a pris,
non, le privé a pris dessus. Il faut pas se cacher. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de start-up qui ont pris le dessus aussi, parce que finalement, avec une petite camionnette, avec du collaboratif, hein, c'est-à-dire que nous, on a travaillé...
C'est le Uber de la livraison.
Voilà, l'Uber de la livraison. C'est-à-dire que si vous voulez gagner 5 euros... Le soir, en rentrant, vous passez à un magasin, vous déposez chez quelqu'un le colis et vous êtes payé 5 euros. Donc, le collaboratif, le fait d'avoir des téléphones mobiles, de savoir à chaque fois... on peut faire des places de marché dans lesquelles on dit, ce soir, tu es à telle heure dans ce métro-là, on sait où tu vas puisqu'on sait où tu habites. Si tu passes et tu prends ce colis-là chez le Franprix du coin, tu vas gagner 5 euros.
Mais... Vous avez parlé de collaboratif, là, la robotique collaborative, ce qu'on appelle la cobotique.
Cobotique,
oui. C'est un nom un peu amusant. Hein. Peu importe. Enfin, la robotique collaborative commence à prendre beaucoup d'essor.
Ah oui, un robot collaboratif, c'est un robot qui peut cohabiter avec l'homme.
Absolument.
Hein, il y a la différence entre les robots, les presses de Renault. Si vous mettez la main en dessous, elle va pas s'arrêter. Hein, elle vous broie la main. Le robot collaboratif, c'est un collègue comme un autre. Bon, qui n'a pas forcément...
Pas vraiment.
Qui n'a pas forcément une tête, mais qui est capable de faire des gestes. Et si jamais il vous le touchez, il arrête de... Il ne va pas vous tordre le bras. D'accord. Et ça, nous, on travaille beaucoup là-dessus parce que associé à de computer vision, associé au fait qu'on puisse voir que là, c'est une bouteille d'eau, là, c'est une lampe, le Kobo va avec sa caméra être capable de prendre la bouteille et la déposer. Donc, on travaille avec c'est marrant, mais avec des laboratoires de luxe, d'accord, qui, au lieu de ranger, et le Kobo va ranger la paillasse le soir, à la place des collaborateurs qui, finalement, peuvent travailler un quart d'heure de plus. Un quart d'heure de plus par jour, c'est énorme pour ce genre d'industrie. Hein. Donc, le Kobo va ranger et va trier tous les flacons de parfum le soir de nuit. Parce que l'avantage du Kobo, lui, il n'est pas syndiqué et il peut travailler toute la nuit, il travaille même le dimanche.
Alors, justement, en parlant des syndicats, est-ce que vous pensez que ça va creuser les inégalités, cette quatrième révolution industrielle?
De toute façon,
Catherine.
Toute révolution, tout changement, tout progrès crée des inégalités. Ça, c'est évident, ça a toujours été et ça sera toujours. Maintenant, après, ce qu'il faut, c'est combler ces inégalités. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, certains vont perdre l'emploi, donc il va y avoir tout un espèce de passage un peu chaotique. Et ensuite, les choses vont se stabiliser à nouveau et il faut effectivement ensuite s'atteler à combler les inégalités. Mais au départ, on ne peut pas avancer. C'est comme quand vous montez un escalier, vous montez marche par marche, hein, à chaque marche. Voilà. Donc, il y a des ruptures à chaque fois et ces ruptures créent des inégalités. Et ensuite, il faut les combler. Et surtout, ne pas les laisser s'installer, parce que si on les laisse s'installer, après, c'est la catastrophe et on termine en révolution
tout court.
Humaine.
je pense que, et pour les combler, il n'y a pas d'autre secret que l'éducation. C'est-à-dire qu'il
Absolument.
Faut qu'à
et
la
et
maternelle...
La éducation et formation.
Je veux dire, à la maternelle, la programmation, qui est un outil quand même de support, la logique mathématique derrière la programmation, les algorithmes, doivent être appris au plus jeune âge. Hein, d'accord. Donc ça on n'y coupera pas. Il faut que nos jeunes, nos enfants...
Sache
comment ça marche, dédramatise tout ça et sache maîtriser les machines.
L'autre chose aussi, c'est qu'on n'apprend plus un métier à vie. Enfin, on apprend une discipline à vie, on apprend quelque chose, mais on n'apprend plus un métier vraiment à vie. Donc on va changer de métier au cours de sa vie et donc il faut savoir s'adapter. Et c'est surtout ça qu'il faut apprendre aux enfants et aux jeunes, comment s'adapter, comment rebondir quand quelque chose de nouveau arrive. C'est là l'intelligence humaine.
Donc cette révolution va nous permettre de plus nous adapter et justement va nous donner cette capacité, on va dire.
Je pense qu'on a intérêt de s'adapter pour mieux gérer cette révolution. Absolument. Je ne sais pas si elle va nous aider elle en elle-même, mais si l'éducation ne passe pas par l'apprentissage et aussi le recul, hein, être capable de reculer et de regarder plus loin pour nos enfants, ils auront du mal à gérer ce qui va suivre.
Et moi, j'ai juste une petite question, c'est que quand on parle robotique, en fait, souvent, on a des gens qui nous disent, voilà, là, les robots vont remplacer l'homme, ça va être des vagues de chômage absolument monumentales. Et est-ce que vous pensez que pour cette révolution industrielle, déjà, est-ce que vous pensez que c'est vrai que le robot remplacera l'homme? Et est-ce que vous pensez que pour cette révolution industrielle, ce sera le cas?
Oui, le robot remplace déjà l'homme dans plein de tâches, l'assiste en tout cas. D'accord, mais je pense que c'est important de dire, le robot vient aussi pour soulager l'homme sur des tâches qui sont compliquées. On parlait de Kobo, hein, Colas, a été les premiers à mettre des Kobo, des squelettes, pour aider les gens à transporter le goudron, à faire les tâches lourdes, avec de l'aide sur le lever de la pelle. D'accord ? Donc ça, c'est une assistance.
Ce qu'il faut, c'est ne pas enlever complètement l'humain, c'est-à-dire ne pas mettre un monde uniquement robotisé. Il faut que l'humain soit là. Alors, il faut qu'il change de métier, il faut qu'il se réadapte à autre chose, son travail va être allégé parce que la robotique l'allège, mais il ne faut absolument pas enlever l'humain quelque part. C'est-à-dire que quand vous informatisez ou quand vous robotisez quelque chose, il faut qu'il y ait un humain à côté qui soit là pour aider, pour discuter, pour arranger ceux qui ne savent pas faire, etc. Donc il faut vraiment qu'on ait à la fois l'homme et le robot.
Et le robot. Moi, je peux donner un exemple. Hein. On travaille beaucoup pour les banques en ce moment, qu'ont eu toujours historiquement un tas d'activités en back-office, d'accord ? Des tâches de « je prends une feuille, je saisis le nom et je la passe à mon voisin qui va saisir une autre chose ». Tout ça, on a mis en place ce qui s'appelle une technologie qui s'appelle RPA, Robot Process Automation. La machine est capable de lire le document, de saisir à la place de l'humain, dans 80% des cas. D'accord ? Et c'est là où l'homme, sur les 20%, l'intelligence de l'homme, sa capacité de voir, ah oui, mais là, c'est pas, il faut pas faire ça parce que il y a eu une rature ou la machine n'est pas capable de le faire, c'est l'homme qui va le faire. D'accord ? Et c'est toujours sous la supervision de l'homme. D'accord ? Les machines peuvent apprendre, mais si elles sont supervisées par l'homme. D'accord ? Donc on va voir. Ne me dites pas qu'une tâche de saisie bête d'une feuille carbonée comme à une époque, ce n'est pas une tâche intéressante. Elle n'est pas autant la donner à un robot. D'accord ? Et donner à l'homme d'autres activités qui seraient rouvrir des guichets pour parler aux humains et comprendre mieux les problèmes plutôt que demander de remplir le formulaire 128LB.
Mais alors justement, par exemple, après la troisième révolution industrielle, on a vu donc le secteur ouvrier baisser en termes d'emploi, mais une augmentation des emplois dans les services.
Dans le tertiaire, oui, bien sûr.
Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Robotisation dans une usine, on peut l'avoir poussée à l'extrême. On a des gens qui supervisent, mais on peut l'avoir poussée. À partir du moment où on passe au niveau du tertiaire, on ne pourra jamais robotiser à 100%. Parce que vous avez l'homme qui est en face. Et du coup, il va vous poser des questions complètement abracadabrant, parfois qui ne sont pas dans les écritures, qui ne sont pas et que le robot n'a pas dans sa mémoire d'ordinateur. Donc, dans le tertiaire, il faudra quand même qu'il y ait de l'humain, et ça, c'est rassurant. Parce que si on était dans un monde entouré de robots, ce serait vraiment d'une tristesse sans nom. Donc, je pense que c'est un peu ce mélange homme-machine qui va prendre le pas dans le système tertiaire.
On a parlé aussi du e-commerce. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces boutiques de quartier et ces centres commerciaux? Elles vont fermer? Ou on va pouvoir quand même essayer des vêtements avant de les acheter, par exemple?
Alors, il y a quand même pas mal de boutiques qui ont déjà fermé depuis 20 ans. On va, oui. dire, on va pas se le cacher. Hein,
mais les centres commerciaux maintenant ont toujours du succès.
Un peu moins quand même. Hein. C'est pas pour rien que Auchan et Carrefour se posent de vraies questions oui. aujourd'hui. Hein. Je pense que Catherine le disait tout à l'heure, il va falloir les réinventer. D'accord. Donc on va mettre au milieu un cinéma avec de la réalité augmentée, avec de la 3D, avec tout ce qu'on peut imaginer, et on viendra en famille dans ces centres. Et on sera livré à la maison de ce qu'on a choisi sur des écrans ou testé. On va plus charger les voitures comme pas possible. Donc je pense qu'il y a quelque chose à réinventer. Moi je le connais pas, hein, je le sais pas. Mais je parlais d'omnicanalité tout à l'heure. Je veux dire, on peut pouvoir faire ses courses sur Internet sur 80% des objets, d'accord. Et puis les 20 derniers pourcents, l'achat plaisir, l'achat surprise, eh ben on peut venir le faire pour le compléter dans un environnement qui serait sympa.
Oui, il va falloir changer l'offre et la demande. C'est-à-dire que quand on est dans une logique de demande, on se dit, bon voilà, j'achète ça, 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 on fait la liste et on sait ce qu'on veut. Mais après, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Et le nouveau, on ne le voit pas toujours sur Internet. On a envie de le voir, on a envie de le toucher. Parce qu'on a sur Internet uniquement des sens qui sont tronqués. Le sens du toucher n'est pas là, le sens de l'odorat n'est pas là. Donc on se dit, tiens, je préférerais aller voir. Donc en fait, on va avoir plus peut-être des endroits où on pourra voir et puis ensuite se dire, ça me plaît, donc le commander. Enfin, je pense qu'on va repenser les centres commerciaux, ça c'est évident.
Et on a aussi atteint certaines choses. Je trouve que Google, aujourd'hui, on lui fait de moins en moins confiance quand même. D'accord ? Parce qu'on a quand même l'impression que tout ce qu'il nous propose en premier, c'est sponsorisé, quoi. Donc on n'a pas l'impression d'avoir la liberté de choix. D'accord ? Et il commence à y avoir des moteurs de recherche qui sortent un peu de ce cercle vicieux. Le Google sait tellement de choses sur vous et sur votre passé. D'accord ? Qui va toujours vous proposer ce que vous avez aimé il y a un an. Mais on aime, nous, en tant qu'êtres humains, on aime changer les choses, se remettre en cause.
C'est un peu la même chose que les stations de radio, par exemple. Vous êtes sur Deezer et puis vous écoutez toujours ce que vous avez envie d'écouter. Mais si tout d'un coup, vous vous dites, tiens, j'ai vraiment envie de me plonger dans quelque chose que j'ai pas entendu, qui me plaisait qu'à moitié, mais j'ai envie d'apprendre, à ce moment-là, vous allez sur une station de radio qui, elle, va vous mettre des choses que vous n'avez pas entendues. Donc, je crois qu'il y aura ce côté mixte des affaires. Vous avez envie de prendre ce qui vous plaît, et puis de l'autre côté, vous vous dites, non, mais je vais aller faire un petit tour dans l'inconnu. Et ça, et là, il faut que l'homme soit là.
Et la quatrième révolution n'empêchera pas le côté pratique, c'est-à-dire que vous allez choisir et ça sera livré à la maison avant que vous reveniez, parce qu'un drone sera parti de l'entrepôt plus proche de chez vous, aura déposé la nouvelle panoplie de Zorro dans votre jardin et vous l'utiliserez sans avoir l'inconvénient de la ramener. Tout ça, vous aurez payé ça, bien sûr, en monnaie virtuelle et tout sera un meilleur service. Je pense que, et ça, c'est l'obsession de ces grand donneur d'ordre, c'est comment j'améliore la qualité du service.
Une dernière question pour finir ce débat. D'après vous, est-ce qu'on peut combiner cette quatrième révolution industrielle et l'écologie ?
Ah ben, il va bien falloir.
On n'a plus le choix. Non mais, ça c'est évident, mais... et je pense que c'est une des caractéristiques de cette révolution. D'accord ? D'efficacité. L'efficacité opérationnelle va améliorer le rendement carbone de toutes ces industries.
On va passer quand même dans une économie circulaire, c'est inévitable, on ne peut pas toujours être dans la croissance exponentielle, donc on va automatiquement passer là-dedans, et donc là, on aura besoin d'avoir, pour le recyclage des déchets, qui sont un problème qui commence à devenir extraordinairement important, pour le recyclage des plastiques, là, on aura besoin aussi de robotisation et la quatrième révolution va jouer un rôle dans ce sens-là, c'est sûr. C'est sûr. Alors évidemment, on va pas remplacer une plante par un robot, hein, ça c'est clair.
et le phénomène locavore va être facilité par tous les outils qu'on a à notre disposition. C'est-à-dire que si vous voulez faire un potage et que vous êtes que 4, vous n'avez besoin que d'un kilo 2 de carottes et vous pouvez les trouver à moins de 10 km de chez vous et c'est là où vous irez, où vous serez livré. D'accord ? Donc là aussi, cette habitude qu'on a tous pris de regarder son téléphone ou son PC pour choisir les choses va permettre de résoudre ces problèmes compliqués d'environnement. D'accord ? Donc être capable de trouver le meilleur circuit, le moins carboné des objets. Moi, aujourd'hui, vous savez, le nombre d'applications qu'on a aujourd'hui sur les téléphones mobiles pour voir l'empreinte carbone du Nutella, plus le côté alimentaire, enfin la manière qualité dont c'est fabriqué, la diététique. D'accord ? Donc c'est arrivé avec la quatrième révolution, hein, c'est-à-dire le téléphone, les applications sur le cloud qui sont capables de venir donner de l'information instantanée, quel que soit l'endroit où vous êtes.
Alors, on n'a pas parlé, mais c'est trop tard, je pense, maintenant.
On peut en dire deux mots.
Du fait que cette quatrième révolution nécessite de plus en plus d'électricité. Et donc, si on continue ainsi à stocker absolument tout... En 2040, la majorité de l'électricité qu'on aura fournie va servir pour le numérique. Ouais. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse aussi, qu'on anticipe. Là, c'est vraiment une anticipation. Hein, une anticipation à 30 ans. Alors, c'est vous qui allez le subir. Mais...
Ouais. On vous laisse ça.
Hein. Mais c'est ça, ça, c'est évident. On ne pourra pas continuer une accélération comme on a commencé. Donc, ça, c'est, on vient de faire une rupture. Cette rupture, il faut la digérer. Ensuite, il va falloir la mettre en régime stationnaire.
Voilà. Vous connaissez les trois pays les plus consommateurs d'électricité sur Terre ?
Oui. Il doit y avoir la Chine,
États-Unis, ouais.
Et le troisième ?
Japon, peut-être.
Non, c'est Internet. Troisième consommateur d'électricité, c'est Internet. Oui. D'accord, donc Catherine, tu avais raison, c'est, il faut en prendre conscience et il faut savoir comment est-ce qu'on le modère.
Voilà.
D'accord, et on le modère peut-être en passant moins de data, on le modère avec des machines plus intelligentes, plus réparties, mieux refroidies. Il y a plein de choses.
Et l'homme va retrouver sa place.
Voilà. Vous savez, il y a une université américaine aujourd'hui qui a mis au point une batterie à base de CO2.
Ah, c'est génial.
D'accord. Oui. Donc, voilà, ça, c'est un espoir terrible. Se dire que finalement, on remplace nos batteries habituelles, qu'on était parti sur les réostats, enfin, les choses sûrement inventées au 19e siècle. Aujourd'hui, avec du CO2, avec de la chimie, avec de l'atome, on est capable ils sont capables de fabriquer des batteries qui vont se recharger très vite et qui vont consommer du CO2. C'est extraordinaire. D'accord. Si on y arrive, alors je sais pas où est-ce qu'on est, mais c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que je fais confiance aux chercheurs, confiance à l'intelligence humaine pour trouver ces solutions-là. Pousser dos au mur, on va trouver une solution.
Eh bien, merci beaucoup. Nous sommes impatients, du coup, d'arriver dans ce nouveau monde que vous nous avez décrit pendant ces 40 minutes d'interview. Merci, Catherine Bréchignac. Je rappelle le titre de votre essai que vous publiez aux éditions Humaine Science le 23 octobre, c'est « Le progrès est-il dangereux ?» avec Arnaud Benedetti. Merci à vous, Jean-Claude Guyard. Est-ce que ça vous intéresse ? Le téléphone pliable, est-ce qu'il aura sa place aussi dans ce nouveau monde ? Eh bien, c'est ce qu'on va demander à Lou. Bonjour Lou, comment vas-tu ?
Bien, et toi ?
Ça va ? Eh bien, ça va. Alors, en 2007, le premier iPhone était conçu par Apple et créait une révolution dans le monde de la téléphonie. En 2020, la mode est au téléphone pliable.
Ah, le smartphone, ce petit appareil si beau, si pratique et dont nous sommes si dépendants. Ce gadget génial qui nous laisse démunis si, par malheur, nous venons à le voir s'exploser sur le carrelage. Dans ce cas, nous avons tous la même attitude ridicule. Nous nous baissons, pleins d'appréhension, le prenons délicatement entre nos doigts et le retournons avec précaution. Dis-moi que t'es pas pété, dis-moi que t'es pas pété. Cri de joie ou de douleur qui suit ce terrible moment. Rassurez-vous, chers amis, bientôt tout ceci ne sera plus qu'un vague souvenir avec l'arrivée sur le marché de l'éclatant téléphone pliable.
Mais tu en promets beaucoup, mais concrètement, le téléphone pliable, comment ça marche ?
Pas si vite, Jamy. Et oui, malgré une volonté de faire, les résultats ne sont pas des plus probants. Le problème vient des semi-conducteurs organiques. Mais qu'est-ce que c'est que vous allez me dire ? Eh bien, à ce que j'ai compris, ce sont des matériaux conducteurs, dits organiques car à base de carbone, qui ont donné naissance, notamment, à l'électronique organique ou électronique des plastiques. Ce sont eux qui permettent aux circuits, à l'intérieur de nos chers smartphones, de se tordre à loisir, sans que le circuit interne ne soit endommagé. Le problème, c'est que leur encapsulation, c'est-à-dire le contenant de ces fameux semi-conducteurs, est en verre rigide. Et qu'est-ce que ça fait du verre rigide lorsqu'on le tord ? Ça casse. C'est pourquoi on a pensé effectuer cette encapsulation avec un polymère souple. Sauf que, dans ce cas de figure, malheureusement, les électrodes nécessaires à la conduction perdaient en efficacité, voire s'en trouvaient également endommagées. En gros, soit on se retrouvait avec un écran qui n'avait rien de tactile dans le meilleur des cas, ou bien qui ne s'allumait même pas dans le pire, soit on en restait au vieux smartphone pas du tout pliable. La solution apparaissait donc toute trouvée. Utiliser des matériaux organiques, dopés aux nanotubes de carbone, donc faire des matériaux en quelque sorte sur-organiques, qui permettrait d'emprisonner les semi-conducteurs tout en épousant cette souplesse qui les caractérise. Une très bonne piste qui est toujours à l'étude.
Mais pourtant, Samsung vient de lancer son tout nouveau smartphone pliable, le Galaxy Fold.
Oui, mais il est à souligner que ce nouveau produit, bien plus marketing que pliable, a subi de nombreuses modifications pour pallier tous les petits problèmes auxquels il s'est confronté. Tout d'abord, chez certains journalistes testeurs, un seul des deux écrans qui composent le grand écran pliable final continuait de fonctionner après un seul jour d'utilisation. Chez d'autres, le lieu de coupure entre les deux écrans devenait tout à coup très visible et sciait la mini-tablette de sorte qu'elle devenait inutilisable. Si bien que le Galaxy Fold, dont la sortie était initialement prévue pour avril 2019, n'est arrivé entre nos mains qu'en septembre 2019. Et je dis nos mains avec d'énormes guillemets car il faudra tout de même débourser plus de 2000 euros pour ce charmant joujou. Samsung étant, de plus, un habitué des rapatriements téléphoniques d'urgence, il ne serait pas étonnant que le géant mondial engage une nouvelle campagne semblable à celle déployée pour le Galaxy Note 7 en 2017, où plus de 2,5 millions de téléphones furent récupérés par le constructeur suite à une série d'explosions pas vraiment prévues.
Donc ce smartphone pliable, c'est peut-être pas pour le monde de demain. Merci Lou.
Petite précision, peut-être que ce sera pour le monde de demain si on trouve les matériaux nécessaires à sa création.
Alors la question reste ouverte. Merci beaucoup Lou, merci Guillaume, merci à tous d'avoir participé à cette émission et merci à vous de nous avoir écoutés. Notre réalisateur c'est Bruno Liuzzi, notre attaché de production c'est Johanna Blin. On se retrouve le mois prochain pour une émission sur la guerre des données. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur votre plateforme de podcast ou sur radiocampusparis.org. À bientôt et en attendant, portez-vous bien.